Up, c'est prier, adorer, louer, intercéder. Le in, c'est établir des communautés d'hommes libres. Hein, c'est ce que nous voulons faire en tant que mission. Et là, out, c'est évangéliser comme une ambassade parmi, dans la cité, justement, dans la société, etc. Donc ça, c'est la communauté. On retrouve ici l'aspect missionnel, hein, communauté, centralité, cité, mais à l'intérieur de la mission, sachant que là, c'est l'histoire, hein, comme Dieu conduit l'histoire de l'humanité. Nous voulons rentrer dans l'histoire de notre Église en tant que personne. Nous sommes une personne morale, nous sommes un corps. Nous pouvons être divisés, nous marchons tous ensemble avec le Seigneur. Alors, constat ce jour, donc ça, j'ai rebondi un peu suite à l'interpellation que nous avons eue durant ce week-end à RNC. Voilà, parce qu'il y a des pasteurs qui étaient un petit peu perturbés avec cette présentation. Est-ce qu'on doit aller vers l'église missionnelle? On doit faire comme Luc Maroni à Lens. Alors, tout le monde dit incapable de faire ce qu'il fait. Donc, bon, ça coupe un peu les bras à tout le monde parce qu'on devrait faire comme lui. Parce qu'il a des résultats incroyables, d'une certaine manière, en tout cas, vis-à-vis de la cité. Mais en même temps, on n'en est pas capable. Donc, voilà. Moi, j'ai fait un petit bilan et je le fais avec vous. Aujourd'hui, la mission que nous avons dans ces trois dimensions, je trouve qu'elle est bien couverte dans les deux premiers pôles. In and up. La communauté et la centralité. Le in, qui est établir des communautés de personnes libres, d'hommes libres, on l'a creusé et on continue à le creuser avec le ministère de libération en Christ, qui est composé du TQP et du ministère des Ladja House international. Hein. Et là, je peux vous dire que là, j'ai fini un marathon avec Simon Polite en Autriche pour arriver à mettre en place les premiers cours qui vont avoir lieu. Donc, ce sera les deux premiers week-ends de janvier. Ce sera vendredi, samedi, dimanche complet sur le premier week-end et le deuxième week-end. Un premier cours et le deuxième qui aura lieu au mois de mai. Donc, c'est les premiers cours de ce ministère qui est un ministère qui est conçu comme Jésus le faisait à l'époque, c'est-à-dire une approche de la personne pour répondre à ses besoins les plus intimes, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans la relation d'aide, l'aide à relationner avec les autres dans la société, la guérison intérieure de tous les traumas, la guérison physique, etc. Voilà. Donc c'est tourné vers l'intérieur pour établir des hommes et des femmes véritablement ancrés sur Christ et capables ensuite après d'aller évangéliser comme des ambassadeurs. Aujourd'hui, on a un projet hein, qui occupe pas mal de membres. J'ai noté 14. Charles, je ne sais pas si je suis juste, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Aujourd'hui, les disciples du TQP, avec les nouveaux qui sont inscrits, 14. Bon, je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, il y a quand même déjà une équipe hein, qui marche bien et qui continue à faire des émules pour que chacun puissent bénéficier, tous les chrétiens qui viennent dans cette église, puissent bénéficier de ce ministère, de les restaurer, et de les établir pour qu'ils puissent atteindre cette histoire de famille dans l'excellence, d'une église accueillante, etc., comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le deuxième, le up, c'est prier, louer, évangéliser, adorer. Et ça, c'est le projet Moving Glad qu'on a lancé il y a à peu près un an. Donc c'est ces rencontres de louanges dans lesquelles nous voulons faire plus que la louange, nous voulons rencontrer vraiment Dieu, le rencontrer dans sa présence même, de manière intergénérationnelle, non pas de manière égoïste, mais tous ceux avec lesquels nous vivons dans toutes les générations, enfants, les petits-enfants, enfin les petits, les grands, etc., nous puissions rencontrer le Seigneur. Parce que c'est un peu comme l'attente de la rencontre, où quand on rencontre le Seigneur, on est transformé, on est changé. Et nous avons besoin de ces visitations du Seigneur, et c'est l'objectif. pas dire qu'on y arrive tout de suite. C'est un travail sur nous-mêmes, c'est un travail de la communauté. Mais c'est un projet qui aussi engage pas mal de personnes. Hein. Je n'ai pas identifié le nombre de personnes, mais c'est tout le groupe de louanges déjà. Mais ensuite, après, tous ceux qui sont autour dans l'intercession, la prière. Vous savez que nous avons aussi la maison de prière, un projet de maison de prière hein, qui va aussi prendre forme quand les travaux seront terminés. Et là aussi, une maison de prière pour toutes les nations, où il y aura l'intercession. On se mettra aussi au service d'autres chrétiens, que ce soit dans la région ou ailleurs. Dans le monde entier, on ne va pas se disperser, mais le Seigneur va nous montrer les choses pour lesquelles nous devons prier. Donc il y a un ministère qui se tourne vers le Seigneur, qui est up, hein, qui est une dimension de l'Église qui est importante. Par contre, le out, vers la cité, eh bien, c'est évangéliser comme une ambassade. Là, c'est toute une compréhension qu'il faudrait développer, que je ne développe pas ce matin. Mais le terme ambassade est très important parce que nous ne voulons pas dominer dans la cité. Nous ne voulons pas prendre le contrôle des choses, que ce soit dans la politique, dans tous les domaines culturels. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur va faire quand il va revenir. Il va établir son royaume sur la terre. Aujourd'hui, il n'est pas du tout établi. Et il ne peut pas l'être parce que le prince de ce monde, c'est lui qui règne. Hein, et il n'est pas encore neutralisé. Donc, nous sommes comme dans une ambassade, hein, dans un pays étranger. Et cette ambassade, elle est néanmoins importante. Elle représente un autre royaume qui a ses valeurs, qui a sa manière de voir les choses, qui va apporter vraiment ce goût de pays qui est représenté pour influencer, pour essayer de chercher à influencer la culture et de ce royaume. Donc, évangéliser comme une ambassade. Si chaque chrétien aujourd'hui, depuis toujours, on l'a fait, on vous encourage, en tout cas en tant que responsable, d'être des ambassadeurs à titre individuel, c'est ce que vous faites. Et on a de bons retours de cette ambassade que vous menez dans chacun à votre lieu de travail pour amener les valeurs du royaume là où vous êtes. Et c'est aussi un encouragement des deux premiers pôles, hein, qui est In et Up, qui vous établit fermement dans la foi chrétienne. Donc vous pouvez le faire. Il reste néanmoins qu'en tant que corps, c'est-à-dire une personne morale. Un corps, c'est une personne morale. C'est-à-dire que si vous mettez tous les uns à côté des autres, nous avons tous une fonction dans ce corps, et ce corps est aussi une réalité. Bien sûr qu'on a du mal à un peu imaginer, parce que, voilà, mais justement, le rassemblement dominical du culte du dimanche permet de visualiser un peu les uns les autres, et chacun, nous sommes des membres d'un corps. Et cette communauté locale a une réalité. Et cette réalité, elle doit se manifester aussi dans la cité, en tant que corps, en tant que personne morale. D'ailleurs, quand moi, je me présente en tant que président, en tant que pasteur de cette assemblée, eh bien, je vous représente, hein, auprès des autorités, auprès des gens que je rencontre, etc. Ils ne voient pas que moi, ils vous voient tout ce qu'il y a derrière. Et ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte, ils savent que derrière une communauté, il y a des gens qui peuvent adhérer ou pas à telle chose, à telle autre, etc. Donc il faut qu'on soit un. C'est pour ça la vision, c'est d'avoir une unité, une même façon de voir les choses, parce que sinon on n'est pas un. Si je vous représente de manière divisée, eh bien ma représentation ne vaut rien, vous voyez, ou d'autres qui vous représentent. Voilà, donc il y a une réalité là-dessus. D'ailleurs, je me permets de vous dire, au mois d'octobre, je reprends de manière assidue la formation des membres, parce que la plupart de tous ceux qui ont été baptisés ici ou présentés en venant de notre église, vous faites partie de l'église congrégation d'Aubergenville, de l'EPEA. Mais pour devenir membre de l'association EPEA, il faut savoir comment on fonctionne. Et donc c'est ce mode de fonctionnement, organisation, etc., qui fait partie de la formation de membres et que je reprendrai rapidement pour que vous puissiez vous engager, ou ne pas vous engager, c'est votre choix, mais vous engager justement dans ce qui fait, dans ce qui fait de nous un corps. Voilà. Parce qu'un corps a ses propres lois. Hein. Si vous coupez un doigt, vous aurez mal. Hein. C'est pas gratuit de se débarrasser d'un membre. Voilà. Donc il y a des lois biologiques et physiques pour ce qui est du corps naturel, et des lois psychiques et spirituelles du corps spirituel que nous sommes. Donc tout ça, c'est nécessaire pour que nous puissions être un et souverain aussi, parce que nous avons une notion de souveraineté dans notre existence, et tout ça, ça fera partie de cette formation. Donc je reviens à l'aspect ambassade en tant que corps. L'aspect ambassade dans ton voilà, que tourner vers la cité est très faible aujourd'hui. Il est très faible. Michel et moi, ça fait, on est venu ici à Aubergenville en 1974, après un séjour à Montréal d'ailleurs, où on était 2 ans. Et depuis, on est là sur Aubergenville et on cherche à avoir des contacts. On a toujours eu des contacts dès qu'on est arrivé avec les autorités, etc. Mais on se représentait nous-mêmes. On n'avait pas d'église ici. L'église ici a démarré en 90. Et en 90, on a cherché à avoir ces contacts. On est allé en Allemagne parce qu'Aubergenville a beaucoup d'échanges avec différentes nations, que ce soit le Portugal, la Pologne, l'Angleterre, etc. Donc on est parti avec eux en Angleterre, avec eux en Allemagne. On a fait des passerelles, etc. Mais on n'était pas suivis. On était seul, on ne représentait pas vraiment la communauté. Donc je peux dire aujourd'hui, en tant que constat, on peut dire qu'on n'a pas cette ambassade vers la cité. Et donc il faut, si on veut être une église telle que la parole de Dieu et telle que la Bible la présente, c'est ce que nous avons à combler. Sans pour autant aller trop loin, parce qu'il faut aussi savoir raison garder, on ne peut pas tout faire, mais on a cette fonction d'être présent dans la cité. Quand j'étais à ANC là-bas, j'ai dit, mais je pense que le corps de Christ n'est pas simplement notre église. Hein, et les églises aux alentours aussi sont dans le corps de Christ, sauf qu'eux, ils ont une vision à eux, ils ont une organisation à eux qu'on respecte, puisque chaque église est souveraine dans sa façon de fonctionner, mais on a des contacts. Moi, je suis le président de la pastorale ici depuis qu'elle existe, parce qu'avant, petit à petit, les églises, il y avait juste une église assemblée de Dieu, c'est tout. Donc on a vu la création de l'église de Melun, la création de toutes les églises qui sont dans la région, et petit à petit, moi, j'ai cherché à les intégrer dans la pastorale pour que nous soyons ensemble cette dynamique dans la région. Bien sûr, dans le cas de la doctrine protestante, hein, non pas le communisme, c'est encore autre chose, mais qu'on représente ce corps dans la région. Voilà. Donc c'est une autre dimension du corps qui dépasse l'église locale. Mais je crois que pour aller vers la cité, comme maintenant, vous voyez, tout se regroupe, hein, aujourd'hui, Aubergenville n'est plus une ville autonome. Elle est dans le groupement de la communauté urbaine, qui est le Grand Paris sénéoise. Le Grand Paris sénéoise, ça va de Poissy jusqu'à Rosny. Je ne crois pas que Bonnières est dedans, mais peut-être Bonnières est dedans, je ne sais plus. Non, c'est toi. Non, Bonnières, voilà, ils font sécession. Ils sont partis avec les Normands, je ne sais pas où. Enfin, bref, c'est quand même une ville. C'est considéré comme une ville, puisque le siège de la ville est dans la zone industrielle des Chevries, hein, avec le président de cette ville, le Grand Paris, hein, est considéré comme une ville, parce que beaucoup de compétences des villes comme Aubergenville n'existent plus sur Aubergenville, elles existent dans le Grand Paris. Et c'est quand même plus de 400 000 habitants. Donc il faut aussi considérer comment nous, on se projette dans ce témoignage de la ville. Vous voyez, il faut suivre un petit peu aussi l'évolution de la manière que la société se voit. Donc c'est un peu normal aussi que si on va vers cette grande cité que je viens d'évoquer, nous le fassions aussi avec d'autres. Et surtout avec des compétences qui dépassent, parce que gérer des projets qui ont une façade qui peut marquer la ville nécessite des compétences. On ne peut pas s'improviser non plus. C'est pour ça que j'ai toujours hésité un peu dans ce domaine de la mission de mettre le poids sur notre église, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas improviser. Il y a des chefs de projet qui peuvent embrasser ce genre de choses et d'autres qui ne peuvent pas. Mais donc, suivons ceux qui ont reçu cet appel. Vous voyez, c'est un peu cette logique-là. Et quand j'étais à RNC, donc à Hoche, j'ai dit, Seigneur, c'est, je crois le moment maintenant, et j'ai pas eu des hallucinations, mais du coup, les jours qui ont suivi ont confirmé, et je voudrais vous donner cette confirmation aujourd'hui, de ce que nous sommes dans ce temps-là, de travailler avec d'autres qui ont été appelés pour ça, et on n'a pas besoin de mettre la pression sur nous pour être une église missionnelle, mais on peut rentrer dans cette vision missionnelle avec d'autres qui nous entourent. Et en particulier avec la Gerbe, où le Seigneur nous a déjà amené à faire un travail de coopération depuis quelques années au niveau de la jeunesse, au niveau de personnes comme Marie-France, Joanne, tout ça, qui travaillent déjà à la Gerbe. Voilà, donc on a déjà des liens de proximité. Et par ailleurs, donc il y a un autre constat que je fais en ce début d'année, les groupes de maison peinent à remplir leur mission in-up-out, parce que là aussi, mission in-up-out s'adresse aussi aux petits groupes à leur niveau. Et là aussi, il y a une lacune dans le côté évangélisation tournée vers la cité, parce que notre vision des groupes de maison que nous avons initié il y a quelques années, c'était aussi, pas uniquement, mais aussi d'intégrer de nouvelles personnes dans ces groupes, des gens que vous connaissez autour de vous, etc. Et je vois que c'est très difficile, même si vous avez fait des efforts là-dessus. Donc on est en train d'être à bout de souffle un petit peu, et c'est important de refaire le point. Donc, je ferai le point prochainement avec les responsables des groupes pour voir comment on peut relancer cette vision des groupes de maison, de manière à ce que... parce que dès qu'on laisse quelque chose qui ne marche pas bien, ça pourrit, hein, et ça donne des mauvais fruits. Donc il faut s'en occuper, peut-être tailler l'arbre, revoir les choses, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais en arriver à comment être ambassadeur de l'Évangile. Donc nous sommes des ambassades de l'Évangile du Royaume. Qu'est-ce que cet Évangile peut apporter à la cité, peut apporter aux gens qui ne veulent pas, on est bien d'accord. Nous sommes dans un pays étrangers, voyageurs dans ce monde, mais en même temps nous sommes ambassadeurs. Donc comment est-ce que nous pouvons faire ces choses et comment est-ce que le Seigneur nous ouvre les portes? Aller au-devant des personnes et de la société avec les valeurs de l'Évangile. Alors je sais que c'est très dur, je suis comme vous dans le même pays. On a commencé avec Michel à faire de l'évangélisation à Paris dans les années 70, et on en sait quelque chose. Quand j'ai commencé le stand avec Michel à Sancier, on m'a craché dessus, on m'a giflé, on m'a déchiré les bibles, on m'a renversé les stands, tout ça. Michel a été agressé, il a failli passer de l'autre côté. Enfin, on a connu tout ça, on sait qu'on est dans un pays de rebelles. Mais le Seigneur nous a dit, je t'envoie dans ce pays de rebelles parce que tu parles le même langage. Donc la langue est importante aussi pour comprendre les gens. Et même s'ils nous rejettent, Dieu nous a placés là. Et malgré tout ça, je suis au milieu de vous voyez. Donc ça ne m'a pas traumatisé plus que ça. Mais je sais que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que je vais fuir. Parce que nous avons chanté encore ce matin que Dieu est un Dieu vainqueur. Vous l'avez chanté ça? Bon, alors est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Ça veut dire qu'il faut persévérer. Et persévérer dans l'épreuve, ça nous fait grandir. Voilà. L'épreuve n'est jamais... ne doit jamais être vu comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui nous fait monter des marches, qui nous fait grandir, qui nous fait croître. Voilà. Et dans ce monde, eh bien, nous avons besoin de ces épreuves pour ne pas que nous endormions sur nos lauriers. Alors Jean-Marc Sémoulin, ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est un artisan vraiment de la gerbe et d'autres choses. Il s'investit au niveau de la région depuis un certain temps. Et je l'ai vu hier au téléphone, vous allez comprendre pourquoi. Il est totalement ahuri, ahuri des proportions que prend ce témoignage dans la société, que Dieu l'a amené à initier. Et ça rejoint exactement ce que Luc Maroni nous a partagé à Lens. Il semble que dans ce pays, il y a quelque chose qui se passe pour l'ouverture à l'Évangile avec l'accord des autorités, avec même la faveur des autorités. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Et il m'a dit, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Même en rêve, il n'aurait jamais imaginé ce qui se passe aujourd'hui. Même en rêve. Ça dépasse l'imagination. Et Luc Maroni a fait le même constat. Il nous a, je ne vais pas vous raconter ce qu'il a dit parce que c'est son discours et sa manière d'être. Voilà, et il le vit, hein, il l'incarne. Il est prof d'université. Il a des capacités hors normes. Mais je dirais que Jean-Marc Sémoulin est un peu dans la même trempe. Et il dit que les portes s'ouvrent comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Alors, est-ce que nous allons laisser passer ces portes? Où est-ce que nous allons répondre? Ça, c'est la question. Vous voyez, je crois que nous sommes interpellés aujourd'hui, pas uniquement Aubergenville, hein, mais moi, je vous parle en tant que responsable d'Aubergenville, mais nous sommes interpellés dans ce pays parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, je vous propose 5 pistes, 5 projets dans lesquels nous pouvons entrer, hein, sachant bien que certains sont déjà très impliqués dans des projets internes, IN. Là, c'est un projet out. Mais voilà, il y en a qui sont dans aucun projet, voilà, donc ça peut vous concerner. Ça peut concerner des gens qui peuvent faire les deux, c'est pas le problème. Je vous le propose, ce ne sera jamais une imposition. Ce sera au Seigneur de vous convaincre d'entrer dans tel ou tel projet qui, effectivement, nous font entrer dans l'aspect missionnel de l'Église. Alors, ça peut être aussi, et moi je pense que c'est des associations inter-Églises, différentes églises, ou trans-Églises. C'est-à-dire que ça dépasse l'Église, c'est juste une personne ici ou là, qui ne représente pas l'Église, mais qui travaille dans un projet, sur la cité, enfin dans la grande cité, hein, la communauté urbaine du Grand Paris, Seine-et-Oise, qui représente 400 000 habitants et qui a un projet de développement, justement. Développement de l'emploi, développement. Vous savez que l'emploi, la Bible dit que le travail, qu'est-ce qui est dit dans Proverbe ? C'est le bien précieux de l'homme. Donc ce n'est pas une malédiction, le travail. C'est le bien le plus précieux de l'homme. Mais regardez parmi nous, ceux qui cherchent de l'emploi, c'est vrai que ceux qui ne trouvent pas, ils sont mal, parce que ça donne du sens, ça donne un salaire, vous pouvez acheter quelque chose. Parce qu'être tout le temps subventionné, ça donne pas dignité à la personne humaine, hein, et toujours assisté, hein, comme dit SDF. Voilà. Donc c'est vrai que le travail est quelque chose qui donne une dignité. Et le Seigneur a créé cela. Et donc il veut que nous puissions, et que les autres qui sont autour de nous puissent avoir du travail, puissent avoir un sens à ce qu'ils font, etc. Je pense que Trans-Église, ça traverse les églises, et le corps que nous représentons ici dans la région peut effectivement répondre à cette question. Alors la première, c'est Évangile et culture. Alors moi, j'étais pas là dimanche dernier, mais depuis 4 mois, j'ai eu monsieur Massefranc, là, qui m'a dit, est-ce que on pourrait passer dans votre église la journée du patrimoine, parce que vous avez un bâtiment. Voilà, il y a des bâtiments qu'il voulait visiter, mais qui n'étaient pas ouverts. Il dit, écoutez, si je ne peux pas le faire chez vous, mon projet tombe à l'eau. Il habite Elisabethville, là. Il a dit, j'aimerais bien montrer votre bâtiment à un groupe pendant cette journée-là. Est-ce que vous seriez d'accord? Alors, je lui ai donné mon accord. Et on a discuté un peu des modalités, etc. Et puis Charles, et les deux Charles d'ailleurs, je pense que vous avez eu des contacts un peu préalables avec lui, voilà, pour vous mettre d'accord. Voilà. Et c'est un homme charmant, je suppose. Je ne l'ai jamais rencontré. Hein.
Parce que j'ai fait l'annonce dimanche dernier, un peu tard, à l'église, là, pour dire qu'il y avait la journée du patrimoine. Et effectivement, ils sont venus, ils étaient 70 plus que 60. et d'une moyenne d'âge 60 ans aussi. Et ils étaient enchantés. Et Didier Masserand, particulièrement Masserand, à la fin de son intervention, il a remercié l'accueil. Particulièrement l'accueil et le fait qu'on ait ouvert nos portes. Et les gens, moi je sentais, c'est très subjectif, mais je sentais que les gens, en fait, ils avaient depuis longtemps envie de rentrer dans ce bâtiment qu'ils connaissent depuis toujours. Et ils étaient presque surpris que ce soit si simple. Et de voir que, on en avait fait aussi, on a montré les photos de l'album des années 90, début 90, des constructions du bâtiment. Ils étaient stupéfaits aussi de voir ce qu'on a pu faire. Donc vraiment les gens ont été touchés et tous en sortant ils ont chacun passé devant moi, je tenais la porte et merci beaucoup, et donc vraiment vraiment content quoi. Voilà.
Alors il semblerait, c'est Charles qui m'a dit que la personne, parce qu'ils ont amené une harpe, ils ont voulu faire un morceau musical, voilà, un morceau musical, je sais pas ce que c'est, Bach, voilà, un morceau de Bach qu'ils ont joué. Et la personne a en plus trouvé l'acoustique super et tout ça. Elle a dit, est-ce qu'on peut revenir faire des concerts ici? Voilà, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a juste ouvert le bâtiment. Vous voyez, c'est une œuvre de Dieu. Voilà, on n'a pas cherché, voilà, c'est un coup de fil qui est venu, on a dit ok, etc. L'ouverture, l'accueil. Et donc, ils envisagent de faire d'autres concerts. Et M. Masserand a dit, je reviendrai, et je garde le contact, voilà. Vous voyez, donc quelque chose qui se produit dans ce bâtiment-là, qui aussi voilà est un cadeau du Seigneur. Hein, d'ailleurs, il y a un mini projet aussi. Hier, on a partagé en réunion d'hommes où Ruben découvre, parce qu'il n'a pas connu cette période-là, que ce serait bien qu'on fasse à l'entrée, là où il y a les vitres à l'entrée, faire quelques présentations succinctes du bâtiment et peut-être de temps en temps faire des expositions un petit peu plus larges pour des gens qui veulent venir. Voilà. Donc c'est, vous voyez, c'est une idée qui émerge, mais qui est l'ouverture vers la cité pour leur faire connaître un bâtiment qui était un casino et qui aujourd'hui est un temple. Ouais. Cette transformation peut aussi, de manière métaphorique, de manière, être un témoignage pour ceux qui viennent et qui entendent ce genre de propos. Il y a aussi freestyle. Vous savez que freestyle, c'est quelque chose qu'on a partagé. On peut faire des expositions Martin Luther King, les prix Nobel chrétiens, etc. Et puis au travers de ça, faire des soirées de contact et d'évangélisation. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Projet numéro un, quelque chose qui tombe comme ça dans l'escarcelle de quelque chose qu'on espérait avoir depuis toujours et qui n'a jamais eu lieu. Hein. Nous, on était toujours ouverts, Michel et moi, on n'aurait jamais fait d'obstruction. Mais là, c'est tombé cette année. Alors, deuxième projet, l'économie sociale et solidaire. Alors là, c'est une initiative du gouvernement précédent, mais qui encore est valable. Hein, c'est une loi Hamon, qui a décrété que le gouvernement allait accompagner, donc avec nos impôts, hein, mais ils sont orientés là-dessus, donc c'est de l'argent que vous et moi donnons à l'État, mais qui est réorienté sur cette économie sociale et solidaire. Et c'est un chrétien qui a mis ça au point. Alors, Luc Maroni, qui viendra au mois de février, vous en parlera longuement, il connaît très bien. Il y a une formation à Paris, à l'église du Bon Berger, pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui justement parle de tout l'historique de l'économie sociale et solidaire. En gros, si vous voulez, c'est pas basé sur le capital. Il y a les capitalismes, donc des gens qui ont de l'argent, qui mettent de l'argent dans une entreprise et qui disent à la fin de l'année, je veux 10%, d'autres 20%, d'autres 30%. Voilà. Eux, ils n'utilisent pas la caisse d'épargne, hein, ils utilisent leur argent dans les entreprises. Mais il faut absolument une rentabilité. Ce qui fait qu'il y a une pression sur les salariés parce qu'il faut faire du rendement. Voyez, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en train d'étouffer toute l'économie mondiale à cause du capitalisme. Mais là, ce n'est pas basé sur le capital. C'est interdit de faire du bénéfice. C'est interdit. C'est à but non lucratif. Voilà. Donc ça commence comme ça. Donc il faut que l'argent qui circule puisse aider soit les salariés pour leur salaire décent ou les gens qui vont être bénis par le travail de cette entreprise. Vous voyez, donc c'est une autre conception, une conception du royaume, la mentalité du royaume. quand vous lisez l'Ancien Testament, ben vous avez cette conception. Donc, c'est basé là-dessus. Et donc, c'est un développement de l'environnement économique qui est promu dans la France entière, dans les différents départements, des différentes régions, dans les différentes provinces. Et voilà. Samedi prochain, il y a le lancement du PTCE. Donc, le PTCE, ça s'appelle un pôle territorial de coopération économique. PTCE. Un pôle territorial de coopération économique. Et samedi prochain, à 14h pile, il y a le lancement de cette PTCE ici, dans le bassin Val-de-Seine, avec toute cette équipe qui, pratiquement, sont tous des chrétiens. Donc, vous avez Jean-Marc Sémoulin, vous avez ici le chef de projet de ce projet du PTCE, hein, c'est Anne-Lise, je crois, Daou, quelque chose comme ça, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, je ne sais pas dans quelle église elle est, et tous ces chrétiens-là qui se sont mobilisés. Et hier, Jean-Marc Sémoulin m'a dit, c'est absolument inouï, parce que, en fait, samedi prochain, donc je vous invite à venir ici pour assister à cette première, de démarrage. Il a dit, il y a des cars qui vont venir de pas de Bercy, mais de la Porte Maillot, qui organise. C'est l'État, hein, qui l'organise pour amener des gens sur les muraux, parce que c'est au muraux que ça va se passer, mais c'est retransmis. Donc on va le retransmettre ici. Et il y a des préfets, il y a des ministres qui vont venir, il y a des gens un peu partout pour assister à ce démarrage. Et pendant 2 heures, il y a une présentation de tout ce qui va être possible de faire. Création d'emplois, création de richesses pour le territoire, etc. Voilà. Donc, ça sera présenté. C'est donc évangile et économie, entrepreneuriat. Le pôle territorial de coopération économique, c'est un regroupement sur un territoire d'initiatives d'entreprises, de réseaux d'économie sociale et solidaire, associés à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche, des organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation de services et de projets économiques innovants et de développement durable. Les PTCE permettent notamment de recréer des filières, des emplois, de revitaliser des territoires sinistrés socialement, économiquement. Et cette initiative, cette innovation, tient à des formes de coopération économique initiées par des organismes de l'économie sociale et solidaire, donc soutenus par le gouvernement. Et par leur finalité sociale, et par leur forme de gouvernance, leur ancrage territorial, contribuent à faire valoir la coopération et mutualisation entre acteurs. Donc il y a énormément d'entreprises, je crois 600 entreprises sur ce bassin-là. Et Jean-Marc Sémoulin m'a dit, c'est incroyable, tous les responsables sont chrétiens. Il dit, c'est incroyable, le gars de Renault, il est chrétien. Les gars de toute la région, ils s'aperçoivent que c'est des chrétiens qui se sont levés. Alors, il faut être discret là-dessus, parce que c'est quelque chose qui fait partie du gouvernement, donc c'est théoriquement laïque. Hein. Donc on le fait à titre laïque, mais avec des valeurs chrétiennes, vous voyez. Donc c'est tous les chrétiens qui, maintenant, sont sollicités. Et c'est ça le miracle. Avant, dans cette société, on ne pouvait rien faire. Rien. Nous, quand on est arrivé avec Michel en 74, on voulait tout de suite s'impliquer à Aubergenville, on ne pouvait rien faire. Ils avaient trop d'argent. C'est une des communes les plus riches de France. Plus maintenant, parce qu'ils ont changé les clés de répartition de ce que Renault apportait, ça allait tout à Aubergenville. Alors, ils avaient trop d'argent, et, voilà, un pour le coup. Donc, les chrétiens, on n'avait plus de place, quoi. Tout était pris. Or, là, c'est l'inverse. Là, maintenant, l'État n'a plus d'argent. Les collectifs n'ont plus d'argent. Et donc, les chrétiens, les portes s'ouvrent. Voyez. Et donc, on peut avoir à nouveau ce rôle désintéressé, mais l'amour gratuit, l'amour parce qu'on aime les gens, parce qu'on veut qu'ils aient de la dignité, parce qu'on veut qu'ils aient un emploi, parce qu'on veut que les choses avancent et que, eh bien, il y ait de la richesse. Et c'est en fait ce passage, tout à l'heure, en ouvrant le culte, j'ai lu Jérémie 29, 11, mais deux versets avant, quatre versets avant, il dit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, et intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » S'il y a des gros problèmes aux muraux à cause... Parce que là, quand on est arrivé, quand Renault est arrivé, il y avait 23 000 ouvriers. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Et ils font plus de voitures qu'à l'époque, parce qu'il y a la robotisation, etc. Mais entre 23 000 et 3 000, les 20 000 sont partis où ? Ben, au chômage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a trois générations de chômeurs, père, fils et petit-fils. Comment voulez-vous qu'ils aient de la dignité ? Si ce n'est que voilà, d'agresser les gens, de brûler des voitures, de vivre de la drogue, etc. Vous voyez, ça, c'est une conséquence tout naturelle. Et nous en supportons aussi les frais. Alors, est-ce que nous allons regarder ça et la caravane qui passe, ou est-ce que nous allons relever le défi de la parole de Dieu qui dit « Là où je vous ai envoyé, vous êtes déportés. » Nous sommes déportés aujourd'hui. Dans un monde hostile, c'est vrai, à l'Évangile, mais néanmoins, qui ont besoin de l'Évangile, qui ont besoin de voir des chrétiens agir avec l'Évangile, avec les valeurs du royaume. Voilà notre défi. Et donc, une ESS, une économie sociale et solidaire, c'est vivre l'économie autrement, avec du sens, des valeurs basées sur l'Évangile. Donc, le 30 septembre prochain, c'est samedi prochain, je vous propose de venir ici pour vivre cet événement historique avec nos frères et sœurs de la région. De 14h à 17h sera lancé le PTCE avec 600 acteurs, associations, entreprises, etc., et avec les chrétiens qui sont sur le devant de la scène. Et Jean-Marc a demandé qu'on prie pour ça, parce qu'il y a beaucoup de défis. On aura du streaming sur YouTube, donc on va le projeter ici en direct. Donc il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de tout ça, ça les dépasse complètement, tellement ça a pris de l'ampleur inimaginable. Et donc on va suivre ça ici. Mais en même temps, on va faire un travail d'accueil, comme on a fait dimanche dernier. D'accueil. C'est-à-dire que là, il va le mettre sur l'ensemble des réseaux sociaux pour que les gens autour de nous puissent venir assister à cette rencontre. Et donc, c'est à nous de les accueillir. Donc, il y aura 2 heures de présentation de ces projets, de développement de la région, et ensuite, après, 1 heure de convivialité, de partage avec les gens qui seront venus. Donc, il faudra être là pour les entourer et discuter avec eux. Ce projet est une nouvelle forme d'évangélisation ambassade par l'intégration dans le tissu urbain de la communauté urbaine en vue de créer de l'emploi, de contribuer à la justice, la paix dans la cité. Une forme d'ambassade de la part d'une communauté chrétienne copilotée par Jean-Marc Sémoulin. Le pilote, c'est la dame que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, donc je propose que nous venions ici. Donc sur l'écran, eh bien, nous aurons la projection en live de ce qui va se passer aux Mureaux, au centre des Mureaux, parce que c'est un pôle qui va être créé, mais ils sont dans les bois, donc aujourd'hui ils ne peuvent pas recevoir toutes les milliers de personnes. Donc ils ont demandé à ce qu'on ouvre des cafés, à ce qu'on ouvre des institutions. Alors il va mettre que le temple d'Aubergenville, qui était un casino, va ouvrir ses portes, etc. Et donc on aura la publicité pour que les gens puissent venir ici pour voir ce que les chrétiens proposent pour la ville et la cité. Donc il y aura 2 heures de retransmission de tous ces projets qui vont être faits. Il y a des baptêmes de l'air qui sont prévus, il y a des choses incroyables, des idées qui sont surgies dans le coin pour le tourisme, pour le développement, etc., qui vont être présentées. Donc vous allez pouvoir voir ce qui est présenté et 1 heure de convivialité avec les personnes qui vont se rassembler ici. Voilà. J'ai bien expliqué. C'est un peu pratique ce matin, mais c'est justement, parfois il faut être un peu pratique et être aussi dans l'histoire. Là, on est dans une histoire qui nous dépasse, mais que le Seigneur nous met à disposition pour être des instruments entre ses mains. Troisième projet. Donc là, dans un premier temps, c'est un projet où on assiste, et ceux qui seront touchés, eh bien, ils pourront voir ce qu'il peut faire dans le cadre de ce qu'on va voir. Moi, je n'en sais pas plus que vous, mais je le découvrirai avec vous samedi prochain. Donc, il n'y a pas de réunion d'hommes le matin. On fait la réunion l'après-midi à 14h jusqu'à 17h. Évangile et relations, rencontre de l'autre. Alors, l'idée que Jean-Marc Sémoulin aussi a commencé sur les Mureaux, c'est d'aller inviter chez l'habitant, d'aller manger chez l'habitant. Les Français, ils aiment bien manger. Vous aimez bien manger ? Découvrir des repas, l'idée c'est ça, c'est au travers du repas connaître l'autre. Alors, vous savez, on se moque, enfin, on se moque pas, mais en tant que chrétien, on dit que Internet c'est l'horreur, et c'est vrai, hein, quand vous voyez tout ce qui circule, mais on peut aussi l'utiliser pour le bien. Okay ? Et il y a beaucoup de développements qui se font aujourd'hui pour le bien. Et ça, c'est un développement qui va très bien à la France. Si demain, j'ai envie de manger, je ne sais pas, un truc grec, inimaginable et tout ça, je regarde sur cette plateforme Viséat, il y en a d'autres, hein, plusieurs plateformes. J'ai là un DVD, mais je n'ai peut-être pas le temps de vous le présenter. Je ne sais pas si j'ai le temps. Non, je n'ai pas le temps. Où vous regardez ce que vous voulez manger, un menu, découvrir, etc. Vous êtes invité, vous allez chez la personne, et puis vous allez passer la soirée chez elle gratuitement, et vous faites même un concert de piano, là c'est le cas, un concert de machin. Enfin, vous pouvez découvrir des gens, discuter, des gens que vous connaissez de personnes, quoi. Et vous, après, vous pouvez aussi inviter chez vous. Et l'idée géniale, c'est que vous avez un profil. Vous avez passé un contrat avant. C'est-à-dire les gens qui viennent chez vous, ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent parce qu'ils ont vu votre profil. Et vous dites que vous êtes chrétien, que vous priez avant de manger, que voilà, ils découvrent une famille chrétienne. Donc ceux qui viennent, ils viennent sciemment chez les personnes manger. C'est vrai, il y a le repas à faire. Mais vous pouvez avoir des contacts que vous pouvez rêver d'évangéliser, ils viennent chez vous. Et vous pouvez leur parler du Seigneur, enfin, dans la mesure où ils sont demandeurs. Mais en tout cas, ils voient déjà comment vous vivez. Et donc ça, c'est une nouvelle façon d'évangéliser. Au Muron, ils ont commencé il y a quelques mois. Ça commence à plusieurs familles chrétiennes qui ont ces invitations respectives. Alors, ce peut être des musulmans, mais les musulmans qui voient comment les chrétiens vivent, etc. etc. Voilà, donc c'est une plateforme informatique, Viséat. Et qui permet, enfin c'est cette plateforme que lui utilise, Jean-Marc, mais il y en a d'autres. Mais bon, il dit qu'elle est bien éprouvée et qu'elle est de bonne disposition pour que les choses soient claires et que le contrat soit clair, que les gens ne viennent pas chez vous. Ah oui, vous êtes chrétien, et ils repartent. Non, ils savent qu'ils viennent découvrir une famille chrétienne et que vous n'avez pas besoin d'avoir honte de, parce que vous l'avez mis sur le site. Et parce qu'ils choisissent. Ils choisissent en condition. Voilà. Je passe là-dessus, mais il m'a dit voilà ce qu'ils sont en train de faire aussi au Muron, plusieurs familles chrétiennes. Projet numéro 4. Commerce social et solidaire. Là, je n'ai pas trop m'étendre parce que Ariel, RNC Ariel, est très très engagée à Toulouse là-dessus. Ça dépasse l'idée des banques alimentaires. Les banques alimentaires, il y a quelques années, c'était donné à manger par du surplus. Du surplus qui viennent des grands magasins aux gens, mais ça montrait ses limites. Parce que c'est toujours les mêmes qui viennent. Enfin bon, voilà, vous faites de l'assistanat sans vraiment échange. Parce que le commerce, donc des épiceries solidaires, c'est une assistante sociale qui, en fonction du besoin, il a dit de plus en plus, c'est des pauvres. Tous les jours, il y a de la pauvreté qui se fait en France. Ils rentrent dans les seuils de pauvreté. Et en particulier des retraités qui ne savent plus payer. Mais ils ont tellement honte qu'ils ne vont pas l'afficher. Et les assistantes sociales savent les besoins. Et c'est eux qui leur donnent une autorisation de venir dans l'épicerie. Donc quand ils viennent, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont envoyés par l'assistante sociale. Donc il y a une sorte de filtre qui se fait, et là vous pouvez avoir des discussions d'une heure avec eux, etc., pour leur parler de l'évangile, parce qu'ils sont demandeurs, et c'est en tout cas l'expérience d'Ariel dans ce domaine. Donc on a pensé ça, et le sous-sol en particulier, qui est en train d'être rénové, pourrait servir à ça. C'est privatif, c'est-à-dire c'est pas public, c'est-à-dire les gens viennent sur une recommandation de l'assistante sociale. Il faudra qu'ils s'inscrivent comme sympathisants de l'association, parce que le sous-sol, on ne peut pas faire entrer du public. Voyez. Donc il y a des modalités, mais c'est tout à fait faisable. Il suffit juste que ceux qui sont intéressés par ce projet, je sais que Vanguy est très intéressé, mais il y en a peut-être d'autres, voilà, en fonction des capacités de faire ce projet, on pourra le lancer ou pas. Évangile et entrepreneuriat. Et David Copier, qui est un PDG de TAES, fabricant électronique et électrique, que Jérôme connaît bien, qui se trouve dans la ZAC. Et c'est un entrepreneur chrétien qui est donc ici sur Aubergenville. Et il est très impliqué dans la zone. Il a créé aussi une fondation. Fondation, bah, il soutient l'école de la source. Il soutient... Pardon ? Non ? Donc il a cet engagement-là et il a une écoute de la part de la mairie. Alors toi, tu es en contact avec lui. Hein. Bon. C'est aussi une possibilité qui est déjà en route. Vous voyez, on peut se greffer à des personnes, mais ça c'est plus spécifique. Donc peut-être pour des startups, pour des choses comme ça, on peut aider à démarrer des choses dans l'entreprise. Dans la région. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Non, peut-être pas. Attendez. J'étais peut-être arrivé à la fin, hein, j'ai pas suivi. Voilà le projet 3, le projet 4, le projet 5. Voilà. C'était tout. Pour l'instant, je m'arrête à 5 projets. Voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est une application directe de ce que Jean-Marc a voulu nous faire partager, qu'on puisse rentrer dans une vision d'une église autrement, avec l'intégration justement de cette notion de partager l'évangile dans un monde qui aujourd'hui va être de plus en plus dans le besoin. Et de voir des chrétiens, comment ils vivent l'évangile. Et je pense que si ça vient du Seigneur, et ça m'a été confirmé par Jean-Marc, il dit qu'ils ont cherché à faire petit, et puis d'un seul coup, ça a pris les proportions qui les dépassent, c'est que ça vient du Seigneur. Et ça rentre parfaitement dans la manière dont Dieu voit les choses. Il ne veut pas nous mettre un fardeau, une pression pour évangéliser. Il ne veut pas nous mettre un fardeau, une pression à faire des choses. Mais il veut qu'on collabore avec lui ce qu'il a prévu d'avance, ce que le Père a prévu d'avance, de rentrer dans ses œuvres. Voyez. Et donc du coup, c'est facile. C'est facile parce qu'on ne s'éreinte pas. On ne produit pas à la force du poignet des choses, mais on rentre dans des choses qui sont préparées d'avance. Et là, je trouve qu'on est dans un kairos. Un kairos, moi, vraiment, ça m'éblouit aussi. Donc, ceux qui veulent vivre ça, je vous encourage à mettre une priorité dans vos agendas pour que samedi, vous puissiez vivre ça, qu'il y ait quelque chose qui est en train de se produire devant nos yeux. Que le Seigneur nous aide aussi, en tant qu'Église, effectivement.